CFM Villefranche, le mag.
Bonjour à toutes et à tous, le mag à Aveyron, de bon début de semaine. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre, le mag en deux temps, comme tous les lundis, avec aujourd'hui Waldo Stephen, praticien en médecine traditionnelle chinoise et en réflexologie plantaire. Et comme tous les lundis, bah alors ça ne bouge pas, bah c'est Karine. Karine Weck Justo Morito. Bonjour Karine. Morito, parce que
elle
ça
est
fait...
nouvelle celle-ci, ah bah, oui, David. Mais voilà, le printemps, là, les beaux jours.
Vous m'avez raconté votre week-end du 1er et du 8 mai, puisque ça fait quand même deux semaines qu'il n'y a pas de rendez-vous. Et bon, bah, Morito, ça m'est venu eu égard à ce que vous m'avez raconté de ces week-ends.
Mais donc, bien tombe, sûr. Mais ceci dit, c'est très bon le Morito.
Ça tombe sous le sens. Diététicienne, bah bon. Nutritionniste, diététicienne, intervenante en goût, de quoi allez-vous donc nous rassasier les oreilles aujourd'hui, Karine? Je vous pose la question.
Mais j'en profite quand même de votre introduction Morito. Sur le Morito, de
la
dire quand même
fraîche.
Que... La menthe fraîche, voilà. Mmh. Mais au-delà de ça, que nous, dans le monde de la diététique, effectivement...
Vous ne vous refusez rien.
Mais alors, je ne sais pas si on peut le dire en ces termes-là, mais voilà, l'idée de toutes nos rubriques, je crois, de parler d'équilibre alimentaire, de parler des différents aliments, c'est aussi l'idée de savoir qu'il n'y a pas de choses qui soient interdites, il n'y a pas de choses qui soient ultra bonnes et qui vont nous guérir de tous nos maux. C'est vraiment la dose qui fait le poison. Et effectivement, quand je dis que le Morito, c'est bon... Bah, j'aime le Morito, et il n'y a aucune raison de se priver de temps à autre d'un Morito.
Exactement.
Et c'est vraiment les messages que, je pense, on essaye de faire passer, David, vous et moi, au travers de ces rubriques.
Non, pas du tout, du tout. Mais vous êtes très dans le puisqu'on a un peu abusé, ou puisqu'on s'apprête à un peu abuser, on va commencer à réfléchir à tout ça. Vous nous éveillez sur cette partie-là en particulier.
Ben, tout à fait, de pouvoir réajuster et de faire ces vases communicants un peu plus, un peu moins, et je fais bouger mes items, je remplis mon vase et je le vide de l'autre côté, et je crois que c'est comme ça qu'on entretient une bonne relation à notre alimentation au-delà de ça.
Vous ne seriez pas là, nous serons en permanence Morito, Morito, Morito.
Non,
on ne se dirait même pas que l'eau existe. Hein. Donc, voilà.
Allez, revenons à nos moutons.
De quoi allez-vous donc nous parler aujourd'hui?
Bah écoutez, je sais qu'on arrive pas loin de la fin d'année scolaire pour la plupart de nos étudiants. Ceci dit, on sera de nouveau bientôt en septembre. Et puis, il y a aussi des étudiants qui restent sur leur lieu d'études pour travailler l'été, etc. J'avais quand même envie de vous mettre la puce à l'oreille pour justement avoir le temps de réfléchir à ce qu'on pouvait faire quand on était étudiant pour bien manger. Parce que c'est vrai que je suis tombée l'autre jour sur un article où depuis le Covid, il y a la précarité des étudiants, il y a l'inflation qu'on a subie, et que malheureusement, dans cet article, il était très clairement démontré que l'alimentation pour les étudiants, c'était vraiment leur variable d'ajustement.
Ah ouais. Les menus à 1 euro, ça n'existe plus, c'est fini.
Alors ça existe, alors que avant, là, il y a quelques mois, c'était pour tous, là maintenant, c'est selon revenu.
D'accord.
Voilà. Ceci dit, le menu au croûte, j'allais en parler, quoi qu'il en soit, mais du coup, je peux le faire aujourd'hui, alors, il me semble, d'après les infos que j'ai, à 3,30 euros, effectivement, ça peut être une solution, 3,30 euros, c'est vrai, c'est aussi une somme, mais d'avoir quand même au moins dans la journée un repas où nous avons, enfin, où les étudiants vont pouvoir trouver tout ce qui est nécessaire à être bien nutri, désolée pour ce terme qui n'existe pas, et de composer avec le reste du budget pour les repas du soir.
Ouais,
vous voyez, je pense à ce qui est souvent décrit comme les aliments les plus chers, les légumes, les poissons, les fruits. Voilà, donc au sein de la restauration collective des Crous, effectivement, on va trouver tous ces produits pour un budget, mine de rien, quand même tout à fait raisonnable, 3,30 euros. Et la variable d'ajustement, justement, plutôt que se faire sur tous les repas, peut-être elle peut, dans ce cas, se faire sur le dîner et ou sur le petit déjeuner. Ça, c'est, à mon sens, assez intéressant à dire. Parce que, comme je vous disais, on sait quand même, en effet, que pour 2022, une année scolaire, les frais d'une année scolaire pour un étudiant, ça a augmenté de 6,5%. Donc c'est énorme. Et quand je dis que l'alimentation, c'est la variable d'ajustement, c'est qu'on comprend qu'un étudiant qui a un loyer à payer, des transports, et puis tout ce qui fait la vie courante, et ses budgets sorties, loisirs, etc., eh ben, entre les deux, des fois, je mange un petit peu moins pour pouvoir sortir. Ce qu'on peut tout à fait entendre. Mais du coup, ça devient problématique quand même sur du moyen et sur du long terme pour la santé quand même, hein, quelque part. Autre point peut-être important à noter, c'est qu'aujourd'hui, les étudiants sont très aussi voilà, dans la livraison des repas, dans les sorties au restaurant, vous voyez, ce genre de choses. Et ben, c'est des choses qui n'incitent pas, mine de rien, au développement de compétences culinaires, par exemple, où on se dit, bah, tiens, je vais acheter 2-3 produits frais et puis je vais en faire un bon repas. Et que souvent, je le répète, ça coûte quand même drôlement plus cher de s'offrir des plats industriels tout faits, micro-ondables, hein, comme on dit, plutôt que de faire soi-même. D'accord ?
Oui, après, tout le monde n'a pas Karine Justeau comme maman qui prépare des petites tupperwares à mettre
tout,
dans le...
figurez-vous,
c'est vrai.
En plus,
ils cuisinent un peu vos fistons ?
Oui, un petit peu, des pâtes.
Oui,
non, mais voilà, typiquement, je sais que mes enfants étudiants, effectivement, ont un repas le midi équilibré. Je sais qu'ils ont suffisamment de connaissances pour savoir ce qu'il leur faut prendre sur ce repas de la restauration collective. Eh ben, si le soir, ils ont envie de manger des pâtes qui, en effet, sont quand même réputées pour pas être très très chères, ou une pizza, ben, très très bien, hein, moi, ça me va, voyez ce que je veux dire. Parce que le problème, c'est que aussi, ce qu'il faut quand même bien comprendre, c'est que les étudiants sont donc par définition des jeunes et que c'est quand même l'âge où on a le plus de besoins nutritionnels.
Ah, ça
et où
mange.
On a, voilà, ouf, ça mange.
Ça mange.
Et c'est normal, d'accord. Mais du coup, ce qu'ils vont voir, eux, ces étudiants, c'est que comment je vais faire pour ne pas avoir trop faim. Donc effectivement, je vais souvent, enfin, ils vont souvent se tourner vers des aliments qui vont être à haute valeur calorique, mais à faible valeur nutritionnelle. Donc effectivement, des biscuits, des choses qui devraient être plutôt l'exception et chez certains, ça devient vraiment la norme. Donc c'est ça qui est important. Donc justement, là, ça va être un temps peut-être où on va retrouver les parents. Ben, peut-être c'est un temps où on va pouvoir justement, enfin, où les parents vont pouvoir s'associer avec les enfants pour trouver des petites choses, des compétences culinaires à mettre en œuvre qui seraient très intéressantes, etc. 5% seulement d'après leur déclaration.
Ça, c'est des chiffres 2023, on ne l'a pas encore. 2022.
5% sur interrogatoire sur l'enquête alimentaire, 5% mangent équilibré. D'accord, a priori. Quand je dis équilibré, c'est tout ce qu'on dit tout le temps, les 5 fruits et légumes, les produits, 2-3 produits laitiers, une portion ou 2 de viande, vous voyez. Compte 66 qui imaginent manger équilibré. Donc, effectivement, on voit bien qu'il y a une déconnexion entre ce que pense faire bien un étudiant et ce qu'il fait en réalité. Et c'est toute cette marge de manœuvre, en fait.
Et les 29% restants, ils sont où
ils doivent estimer qu'ils ne mangent pas bien.
Voilà. Bon, d'accord, ok.
D'accord. Et puis, ce qui est intéressant quand même, hein, et c'est peut-être une petite alerte aux parents, là, que je fais à travers cette rubrique, mais on sait quand même que sur 2022, 13% des étudiants étaient en situation de maigreur ou de surpoids, donc vous voyez, l'un ou l'autre. Et 5% en situation d'obésité. D'accord. Donc, c'est quand même des chiffres qui sont à regarder parce que qu'on soit sous le registre de la sous ou de la suralimentation, il nous faut les aider. Il nous faut les aider, d'accord. Et effectivement, pour moi, quand même, alors on peut dire tout ce qu'on veut, hein, le Crous, peut-être les étudiants qui nous écoutent maintenant disent « ouais, c'est pas bon », etc. N'empêche, on a quand même toutes les valeurs nutritionnelles qu'on va devoir avoir et au moins un repas par jour.
Vous auriez des petites combines alors,
oui, ouais. Alors évidemment, il y en a plein. Il y a des grandes surfaces où il y a les dates limites,
par exemple, c'est vrai.
Il y a les fins de marché où souvent les primeurs vont préférer vendre un peu moins cher au kilo plutôt que de remballer.
Il faut être là au bon moment là-dessus. Mais bon.
Ah bah, faut aller au marché le dimanche, par exemple, à 13h30 ou 13h, vous voyez, des choses comme ça. Ça peut être aussi, je vais faire un plat, allez, je vais vous prendre une blanquette, admettons, il y en a un qui se lance à faire une blanquette et on partage, et puis la fois d'après, le week-end d'après, c'est l'autre, vous voyez, j'améliore un petit peu, ça peut être des petites choses comme ça, qui sont mises en œuvre déjà. Ça peut être aussi, si on a un petit peu de place pour stocker et un petit peu d'avance sur notre budget, bien regarder les étiquettes, mais aussi profiter des promotions, les de acheter un offert ou des choses comme ça. Alors, il faut regarder, hein, des fois, il y a des pièges. Mais malgré tout, ça peut être ça aussi. Après, ça peut être aussi, si j'ai une petite partie congélateur, ben, le jour où, effectivement, il y a ce genre de promotion, je congèle et voilà. Ça peut être aussi le batch cooking. Vous savez, cette idée, par exemple, j'ai un petit four à l'allumer, j'y fais aussi bien une quiche qu'un gratin de légumes. Je n'ai dépensé qu'une fois de l'énergie. C'est toutes ces petites choses, en fait. On avait déjà fait des registres sur le budget. Ouais. J'invite vos auditeurs qui sont intéressés à les retrouver. Mais il y a tout un tas de petites choses, quand même, aujourd'hui, dont on sait qu'ils peuvent baisser le budget. Mais quand même, peut-être, si ça peut me servir de conclusion, je dirais que de toute façon, ça coûtera toujours moins cher de faire soi-même même des choses hyper simples, plutôt que d'acheter des produits transformés qui, outre leurs tarifs, de toute façon, ne vont pas nous nutrir correctement, nous donner faim dans l'après-midi, etc.
Allez, c'était le budget étudiant aujourd'hui dans votre chronique. Karine, on se donne rendez-vous. Dans le contexte, peut-être que on sait pas encore, mais on va se revoir certainement.
Oh, il y a des chances, oui. J'imagine, en tous les cas.
Allez, belle journée, Karine.
À bientôt. Au revoir, tous les auditeurs.
La suite du programme dans un instant. Après, un peu de musique. Waldo Stephen, praticien en médecine traditionnelle chinoise et en réflexologie plantaire. C'est le mag Bien-être, Santé, Florette. Pâquerette du lundi, le mag Aveyron.
CFM, CFM Radio. Votre radio dans l'Aveyron.
C'est bon ? Non, non, c'est bon, ça y est. Là, je peux y aller
CFM, CFM Radio, votre radio dans l'Aveyron.
Le mag Aveyron, la suite, le rendez-vous chaque début de semaine, santé, bien-être, Florette, pâquerette, et mieux-être encore avec, comme annoncé, Waldo Stephen en studio. Hello, bonjour Waldo.
Bonjour David.
Praticien en médecine traditionnelle chinoise, samouraï de la réflexologie toutes les deux semaines en studio pour une intervention qui est soit philosophique, soit pratique, avec des points à expérimenter à la maison, des points d'acupression ou théorique. Et aujourd'hui, je crois savoir que c'est théorique, théorie des cinq mouvements même, précisément. Ça sera l'intitulé de la chronique que l'on retrouvera sous peu en podcast sur le site cfmradio.fr.
Voilà, c'est ça. On va parler des cinq mouvements. Donc les cinq mouvements, c'est vraiment une théorie fondamentale dans les arts chinois, la médecine traditionnelle chinoise. Et c'est important parce que c'est ce qui va nous permettre de comprendre un petit peu comment on va pouvoir travailler en médecine chinoise dans la régulation, que ce soit au niveau de la physiologie des organes, mais aussi au niveau des comportements psychologiques, psycho-émotionnels. Donc comment en fait on est régi par des lois naturelles que les Chinois ont appelées, on va dire, la théorie des cinq mouvements, des cinq éléments. Donc c'est relié, on avait déjà parlé un petit peu au printemps de l'énergie, par exemple, du bois. Donc l'élément bois, qui était relié par exemple aussi à l'organe foie et qui était relié par exemple aussi à l'émotion, de la colère et ainsi de suite, les saveurs. On a vraiment beaucoup de choses à dire au niveau des cinq mouvements. Donc là aujourd'hui on va principalement parler de la loi au sein de ces cinq mouvements, la loi en fait, d'engendrement de ces mouvements, donc qui correspond un peu au cycle naturel, saisonnier par exemple, et la loi de contrôle aussi de ces cinq mouvements qui vont permettre aussi de garder un équilibre, par exemple au niveau de sa santé, au niveau de son corps et de son énergie. Voilà, voilà. Alors, pour commencer, il faut définir un petit peu ce que c'est que les cinq mouvements. Donc, on a, au niveau des éléments, on a le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Donc ça, généralement, beaucoup de gens connaissent. Ça va former une sorte d'étoile, avec deux pieds, deux mains et une tête. Et chaque élément, en fait, va être relié l'un par l'autre et s'engendrer mutuellement. Donc ça, c'est ce qui va permettre en fait de comprendre un petit peu le système d'analyse, le système d'observation et de compréhension des éléments au sein de la nature, mais aussi dans l'homme. Donc, comme je disais tout à l'heure, on a le bois, par exemple, qui va engendrer l'élément feu. Voilà. Donc si on fait un cercle autour de cette étoile, on va voir que le bois, mettons si on place le bois sur la partie gauche de l'étoile, ensuite on va se relier, on va engendrer le feu qui est relié à l'énergie du cœur, et donc comme on disait la dernière fois, donc, qui correspond aussi à la saison de l'été, le bois étant le printemps plutôt. Et cet engendrement va permettre de comprendre un petit peu comment on peut agir aussi et définir un petit peu ce qui se passe dans nos vies par analogie un petit peu au système naturel et dynamique de la nature. Voilà. Par exemple, au niveau du feu, le feu va engendrer la terre. Voilà. Le feu va engendrer la terre. La terre va, par exemple, engendrer le métal, l'eau, et ensuite, on comprend mieux à la fin, l'eau va engendrer le bois. C'est normal, il faut de l'eau pour faire pousser le bois.
Voilà. Marabout, bout de ficelle, sel de cheval, et, hein, c'est la chanson.
C'est ça. Donc voilà, donc, en fait, ça fait partie des théories fondamentales. Donc cette théorie fondamentale des cinq mouvements, elle découle directement de la théorie du yin et du yang dont on avait parlé précédemment. Et on va dire, si la théorie du yin et du yang va se retrouver, on va dire, au niveau des lois cosmiques, on va dire, la théorie, en fait, des cinq éléments va se retranscrire sur Terre et au niveau de l'homme. Donc on va pouvoir imaginer toutes sortes d'images pour essayer de mieux comprendre ça. Et c'est ce qui va nous permettre, en acupuncture, par exemple, ou en diététique, hein, comme on a vu souvent, les éléments sont reliés à des saveurs, et ces saveurs, en fait, vont plus ou moins tonifier ou permettre justement de rééquilibrer un organe en fonction de ses propriétés, de ses caractéristiques. Donc on va utiliser les cinq saveurs qui sont reliées, par exemple, aux cinq mouvements. Voilà. Pour aller un petit peu plus loin au niveau des cycles, en fait, on a le cycle d'engendrement qui est le cycle Sheng, voilà, et on a le cycle de domination. Alors c'est un peu compliqué tout ça, mais on a le cycle de domination Ko qui, lui, en fait, va permettre aussi de rééquilibrer. C'est-à-dire que dans cette logique un petit peu circulaire d'engendrement, on a cette étoile donc à cinq branches, et il y a une sorte de contrôle de ces éléments les uns envers les autres. Donc par exemple, la terre en médecine chinoise, l'élément terre, c'est relié à la rate et à l'estomac. Donc il se trouve, on va dire, principalement, globalement, on peut changer hein, cet ordre, on peut changer cette manière de le voir, mais on va dire sur l'étoile, c'est la branche sur la droite, la terre, l'énergie de la terre, en fait, va contrôler, par exemple, l'eau. Voilà. Donc la terre va contrôler l'eau. Si on veut se faire une image, une digue, ça permet de contrôler l'eau, au niveau naturel, au niveau des éléments, par exemple. On va dire aussi, par exemple, j'ai plusieurs exemples, mais en fait, il faut se visualiser cette étoile, et en fait, à partir de là, on va pouvoir tout simplement comprendre un petit peu comment les organes vont dans le corps humain, comment les organes vont se contrôler les uns les autres pour se limiter ou pour justement ne pas avoir de déséquilibre. Donc toute cette logique de fonctionnement, en fait, elle va permettre de comprendre un petit peu mieux comment dans la science un petit peu chinoise, comment est-ce qu'on va travailler en médecine traditionnelle chinoise pour rétablir un équilibre, maintenir en fait la santé dans le corps humain. Et les Chinois, ils vont utiliser ça aussi. On va dire ces théories anciennes, elles ont été utilisées aussi dans différentes sphères en fait, par exemple en musique ou en politique. Bon, ça paraît un peu compliqué, mais par exemple, voilà, si on l'utilise en politique, on peut dire bon, s'il y a une mauvaise nouvelle à annoncer, on va l'annoncer l'hiver. Pourquoi ? Parce que bon, l'hiver, ça va être une période où les personnes, elles sont chez elles, ils vont pas sortir dans la rue logiquement pour gueuler. Voilà, si on annonce la mauvaise nouvelle l'été, ça va être plus contraignant, ça va produire un effet de mouvement beaucoup plus fort, ça va produire du feu, voilà. Donc tout ça, c'est un peu complexe.
Ah oui, ça l'est, mais c'est passionnant en attendant.
Ouais. Ouais. C'est passionnant, mais c'est vrai que ça prendrait un petit peu plus de temps pour vraiment bien expliquer. Donc après, ce système-là, on peut aussi le calquer. Alors j'essaie de trouver des images des fois un petit peu qui parlent plus, mais si on voulait s'imaginer, par exemple, bon là on n'est pas loin de la route, on pourrait s'imaginer un rond-point. Donc un rond-point, il y aurait ces cinq directions, et au niveau du trafic, il y aurait probablement une route qui est plus empruntée que l'autre, voilà, une route qui n'est pas empruntée. Le trafic à ce niveau-là, bon, je donne un exemple, j'improvise là. Par exemple, la route qui va du Rhin au cœur puisse être saturée, par exemple. Et la route qui arrive du foie sur la gauche, là, ça va bloquer, ça va énerver les gens. Donc en fait, l'idée, c'est, on va dire, pour le praticien en médecine chinoise, ça va être un petit peu d'être, on va dire, l'agent de circulation de ce rond-point. Voilà. C'est une image pour essayer de donner une image vraiment plus simple que l'étoile avec les cinq mouvements, parce que souvent on voit cette étoile-là, quand on tape médecine chinoise sur Internet, on va voir les couleurs, on va voir tout ça. On comprend pas bien, mais en fait c'est vraiment une histoire aussi de liaison, hein, d'interdépendance aussi entre ces éléments, et ce qui va permettre après, plus tard, avec un peu plus de compréhension, d'affiner un petit peu une forme de diagnostic sur l'état de santé de quelqu'un au niveau de ses émotions, au niveau de la physiologie, au niveau de ses organes, de la santé de ses organes, et au niveau de son mental, de l'émotionnel. Si par exemple, comme on peut imaginer quelqu'un qui au niveau de l'hiver va pas entretenir l'énergie de ses reins, ne va pas théoriser assez d'énergie, le yin du rein par exemple, il va se retrouver directement en été avec le cœur un petit peu en outrance, quoi, parce que tout simplement c'est dans le cycle de contrôle dont on a parlé, le rein va permettre au cœur justement de pas exploser, voilà. Donc si on travaille au niveau des saisons, comme on dit souvent dans cette émission, on va pouvoir clarifier les émotions de notre corps, et du coup directement aussi au niveau de notre mental, de notre stress, on va pouvoir agir sur notre santé, sur notre bien-être, en travaillant avec cette logique de la théorie des cinq mouvements. Alors ça paraît un peu difficile pour quelqu'un qui connaît pas tout ça, mais c'est justement pour ça qu'on va voir aussi quelqu'un qui a un peu appris cette logique-là et qui va pouvoir vous aider à l'appliquer dans votre quotidien, que ce soit à travers la diététique, à travers aussi l'acupuncture et toutes les pratiques de la médecine traditionnelle chinoise.
Peut-être qu'on retrouvera sous peu un article sur votre site, Waldo, oui. Stephen. Alors sur la théorie des cinq mouvements, en tout cas des pistes complémentaires.
Oui, alors c'est comme le yin et le yang, c'est tellement vaste, alors on peut l'expliquer simplement, mais c'est tellement vaste qu'on a vite fait de s'y perdre un petit peu, et ce que je vais faire sur mon blog en fait, c'est faire plusieurs parties d'explication pour essayer de comprendre élément par élément, et pas faire un article de 40 pages, parce que sinon c'est ce qui pourrait arriver. Il y a plein de livres sur la théorie des cinq mouvements, faut pas hésiter justement, si on a envie de se renseigner sur cette théorie-là et sur cette manière de travailler dans la médecine chinoise, on peut très bien acheter un livre ou aller sur internet déjà clarifier certains points. Et donc oui, sur mon blog je vais faire quelques articles à ce sujet, parce que c'est le liant aussi de toutes les autres choses aussi qu'on va retrouver, de toutes les autres pratiques qu'on va retrouver. Comme je dis, c'est une base de la théorie fondamentale de la médecine traditionnelle chinoise, et ça permet d'aller un peu plus loin dans la compréhension de ces émotions. voilà, de tout ça.
Une théorie, un outil aussi donc utilisé en médecine traditionnelle chinoise. On le rappelle, Waldo Seven, vous êtes praticien en médecine traditionnelle chinoise et également en réflexologie plantaire. Une citation pour boucler cette intervention, intervention de la saison d'ailleurs. On peut vous suivre pendant tout l'été sur votre site, on ne l'a pas dit, Zudao, Zudao.fr.
Voilà, alors pour la petite citation d'aujourd'hui, on va rester un petit peu sur les émotions. Alors c'est pas les émotions forcément de saison, mais comme on disait, ça peut être engendré par les saisons précédentes. Une petite citation de Lao Tzu, hein, qui est un grand philosophe chinois, qui dit « Si tu es déprimé, tu vis dans le passé. Si tu es nerveux, tu vis dans le futur. Si tu es en paix, tu vis dans le présent. »
Ouais,
Lao Tzu.
Merci Waldo.
Merci à toi.
C'était le mag de ce début de semaine. Merci à toutes et à tous. Et l'intervention du jour sous peu en podcast sur le site cfmradio.fr.
CFM, CFM Radio, votre radio dans l'Aveyron.